Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui vous accompagne en vacances, au bureau, au village, à la maison, où que vous soyez, pour que 2021 soit une année digitalement excellente. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Frères et sœurs d'enfants gravement malades, sujet douloureux à plusieurs titres, car si l'annonce d'un diagnostic lourd constitue une épreuve pour les parents, cette souffrance, ce ressenti d'adulte, si cruel soit-il, sont-ils pris en compte, intégrés par les soignants, par l'entourage? Mais qu'en est-il vraiment pour les autres enfants de la famille, pour la fratrie? Que comprennent-ils de ce séisme familial que constitue l'annonce d'un cancer, d'une maladie dégénérative, d'un handicap ou d'une maladie chronique nécessitant une prise en charge lourde? Quelle va être leur place dans cette tribu désormais peuplée d'absences, de larmes, d'inquiétudes? Ont-ils encore le droit de se plaindre, de réclamer un câlin ou un nouveau jouet? Leur doit-on toute la vérité ou au contraire faut-il les épargner au maximum? Et à l'hôpital, quelle est leur place? Quel est leur ressenti? Comment interprètent-ils l'image d'un petit frère, d'une grande sœur, amaigri, alité? Cette épreuve peut fragiliser à plus ou moins long terme un frère, une sœur, pour qui la colère, la culpabilité ou l'impuissance se révèlent insupportables. Épreuve qui peut aussi susciter des vocations, apaiser les souffrances des autres comme projet de vie d'adulte. Une épreuve à hauteur d'enfant qui, en tout cas, mérite d'être davantage prise en compte. Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades, c'est le titre d'un remarquable livre que vous avez signé. Muriel Sibilia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, cet ouvrage est publié aux éditions Slactine. Vivre avec la maladie de son frère, de sa sœur, réalité dans le service où vous exercez. Dominique, docteur Dominique Valto-Couanet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes chef du département de cancérologie de l'enfant au sein de l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif, centre régional de lutte contre le cancer. Grave maladie quand la vie de l'enfant est en jeu. Nous en parlerons avec le docteur Nago Imbert, qui a fondé à Montréal au Canada le service des soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine. Et il enseigne aujourd'hui à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et autre sujet pour conclure cette émission, cardiologie pédiatrique, première opération à cœur ouvert menée au Burkina Faso, mission chirurgicale de la chaîne de l'espoir. On va donner la parole au docteur Éric Chesson, président de cette ONG qui œuvre pour la coopération en matière de santé pédiatrique dans 27 pays.
Priorité santé sur RFI.
La maladie d'un enfant, l'impact pour les frères et sœurs, personne n'y est préparé. Mais en étant confronté à cette situation, on observe, on écoute, on peut s'interroger, on peut trouver conseil auprès de spécialistes. Et c'est ce que vous avez fait, Muriel Sibilia, dans votre livre, né de votre propre expérience. Question toute simple, hein, pourquoi ce livre ?
Alors, bon, dans mon expérience personnelle, c'est que j'ai eu une fille qui a eu un cancer alors qu'elle avait 11 ans, un cancer très méchant, qui a nécessité énormément d'opérations, d'actions, etc. Donc j'ai aussi été confrontée de manière directe à ce qui se passait. Elle a une sœur aînée et un grand frère, et ça a complètement bouleversé les relations au sein de cette fratrie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'avais fait un premier livre qui s'appelait Côté nuit, côté soleil, où j'avais recueilli le témoignage de 10 jeunes qui avaient traversé l'épisode cancer. Et je me suis rendu compte un jour en recevant le livre d'un ami ce livre était dédié à moi, à ma fille, à mon mari, et pas à mon autre fille, ni à mon beau-fils. Et ça a été un choc, c'est-à-dire que j'ai pris la mesure.
Ce premier livre, c'était la parole donnée aux jeunes patients.
Oui, oui. Mais ça a été un vrai choc, c'est-à-dire que j'ai pris la mesure de la disparition.
L'effacement.
De l'effacement des autres. Et comment, dans l'imaginaire de l'ensemble des gens qui nous ont côtoyés de près ou de loin, on n'avait plus qu'un seul enfant, c'était celle qui avait été malade.
Faut-il être malade pour avoir sa place dans la famille?
C'est un risque.
D'un enfant malade.
C'est un risque et ça fait partie aussi des effets secondaires indirects. Parfois, les fratries, certains membres de la fratrie vont tomber malades justement pour retrouver une place. Et par exemple, il y a une jeune fille qui dit, elle raconte comment elle savait pas vraiment on lui avait pas dit la vérité. Et elle raconte comment elle, petite, elle était très fâchée envers ses parents parce que quand elle avait de la fièvre, il lui donnait un aspégique. Quand son frère avait de la fièvre, immédiatement, c'était le branle-bas de combat. Et elle comprenait pas.
Docteur Dominique Valtocouanet, l'oncologie pédiatrique, spécialité où chaque diagnostic constitue une épreuve. Hein. On n'annonce jamais un cancer comme on annonce, on va dire justement, quelque chose qui nécessite un petit cachet. Question de l'annonce, du temps, des mots pour mettre un nom sur les symptômes et les douleurs. On en parle souvent dans cette émission, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, notamment trouver le temps. Lorsque le patient est un enfant, comment l'annonce se passe dans le premier temps? Là, pour l'instant, on ne parle pas des frères et sœurs. Ça se passe comment? Ça se passe dans le cercle de trois personnes, les parents, l'enfant?
Ça se passe dans le cercle, en effet, de l'enfant avec ses parents, ou des parents puis de l'enfant en fonction de l'âge de cet enfant. Mais l'annonce du diagnostic de la maladie et du programme thérapeutique se fait dans ce cercle-là, en effet.
Alors aujourd'hui, on parle de la fratrie, justement. On élargit le cercle. Frères et sœurs, dans la plupart des cas, donc, absents de cette consultation d'annonce, et pour cause. Docteur Valtocouanet, alors à qui revient-il de le dire? C'est tout ce qui se prépare, c'est ce fardeau à venir, c'est ce séisme pour la famille. Qui va le dire?
Alors, cette question est abordée en général dans cette consultation d'annonce. On sait des parents qu'il y a une fratrie, et la question du coup se pose comment parler avec les frères et sœurs, et qui va le faire. La proposition qu'on fait habituellement, c'est de rencontrer les frères et sœurs si les parents le souhaitent, ce qui n'est pas toujours le cas, qu'ils le souhaitent, et ce qui n'est pas toujours très facile, parce que l'éloignement, la vie fait que cette rencontre peut être un petit peu compliquée. Mais c'est une proposition qui est faite de façon constante.
Alors, des épreuves forcément singulières en fonction de l'âge des enfants, l'histoire de la famille, la nature de la maladie ou du handicap. Muriel Sibilia, malgré tout, il y a des traits communs en ce qui concerne les réactions. Vous avez cette fois-ci dans ce livre-là interrogé des frères, des sœurs, dont le petit frère, la grande sœur avait eu un cancer, avait survécu ou non, hein, il y a plusieurs cas de figure. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit des réactions à l'annonce? Et même, est-ce que ce souvenir existe encore?
Alors, dans certains cas, non. Ça a été, en tous les cas, le moment précis de l'annonce a été complètement refoulé. Beaucoup parlent d'un effet un peu de sidération. C'est-à-dire que sur le moment, quand l'annonce est faite, l'information est transmise, il y a une incompréhension. Alors, en même temps, ils ne peuvent pas imaginer ce que ça va impliquer dans les mois qui viennent.
Le bizarre, c'est quoi? C'est davantage ce petit frère ou cette petite sœur qui est un petit peu plus fragile que d'habitude, ou c'est plutôt les parents le problème?
Alors, c'est d'abord le fait que dans la compréhension de ces jeunes, puisque je me suis intéressée qu'à des jeunes entre 20 et 30 ans, et qu'il y avait un autre âge au moment où les choses se sont passées, c'est qu'on a ce sentiment, cette croyance que le cancer, c'est pour les grands. Et l'idée que ça puisse toucher des enfants en bas âge ou des jeunes, c'est quelque chose de... ça relève de l'impensable.
C'est l'injustice dans l'injustice.
Aussi. Mais c'est dans de l'impensé.
Inconcevable. Ouais. Et alors, par contre, comme justement vous avez donné la parole à des jeunes gens qui ont déjà un certain recul, beaucoup d'ailleurs une intelligence très vive, ils sont capables de mettre des mots et ils reconnaissent, d'ailleurs sans jamais incriminer l'entourage, hein, jamais dire à mes parents ont mal agi ou quoi que ce soit, c'est un regard qui est quand même très mature. Il y a déjà peut-être ce premier trait commun, c'est une grande maturité.
C'est forcé. C'est-à-dire que quand on est confronté à une maladie grave et dans certains cas à la mort, ça vous fait grandir d'un coup. Et ça marque aussi dans ce qu'on appelle le roman familial, une sorte de frontière. C'est-à-dire que ça a été très marquant dans les récits que j'ai recueillis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant et un après. Et dans l'après, l'une des choses qui est très importante, c'est que, et qui est partagée par tous ceux avec qui j'ai travaillé, c'est ce sentiment que rien n'est stable, que n'importe quoi peut arriver. Donc il y a une perte de l'innocence, de la candeur qui est un peu le propre. enfin de la foi dans l'avenir.
Et de la sécurité.
Et de la sécurité.
Et
oui.
En tout cas, ils reconnaissent, bien sûr, tout a changé avec deux choses qui peuvent s'entremêler, à la fois les effets, on va dire, collatéraux, les séquelles, et puis en même temps une notion d'apprentissage, d'initiation. Ils ont appris de ça. Ils ont appris pour le meilleur et pour le pire. Ils ont appris ce que c'était la douleur, mais aussi ils ont appris du regard des autres. Ils ont aussi appris des fois à se protéger.
Alors, pas souvent à se protéger, en fait.
Après coup, une fois qu'ils ont ce regard, ils ont souffert aussi. Mais justement, ils en ont tiré des enseignements.
Oui, alors pour certains, ça leur donne effectivement une très grande maturité et puis cette capacité d'empathie et aussi de relativisation de ce qui se passe. C'est-à-dire que beaucoup disent, mais finalement, c'est pas si grave. Toutes les autres petites choses qui peuvent arriver dans l'existence, c'est pas si grave parce que ce qui est grave, ils l'ont touché du doigt vraiment.
Alors, vous, docteur Dominique Valto-Coinet, vous prenez en compte cette dimension de la fratrie dans votre profession, puisque vous êtes en pédiatrie. Mais malgré tout, est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert en exerçant ou est-ce que c'est quelque chose qui avait été anticipé pendant votre formation ?
D'abord, je suis relativement âgée et donc la formation que j'ai eue, elle est plus du tout celle qui existe à l'heure actuelle. Donc clairement, moi, dans ma formation, c'était pas du tout un sujet et j'ai appris avec le temps.
Et vous les jeunes qui arrivent chez vous, ils ont cet apport en formation ou c'est encore quelque chose qui est totalement extérieur ?
On essaie, dans la formation des jeunes médecins que nous avons en charge, de leur transmettre cette façon d'annoncer les diagnostics, de prendre en charge l'ensemble de la famille et de prendre en compte ces éléments. Mais on a appris avec le temps et je pense que ce qui est exposé dans ce livre, que j'ai trouvé vraiment passionnant et très intéressant et très utile, qui devrait être lu par les soignants pour comprendre mieux les choses et puis évidemment par les gens qui vivent cette expérience. C'est des choses qui se sont construites et donc qu'on doit introduire maintenant dans nos pratiques. Mais on n'a pas appris ça clairement quand on était petit.
Alors un premier témoignage dans cette émission, justement donner la voix aux frères et aux sœurs. Vous restez avec nous mesdames. C'est une grande sœur, Anaïs, elle a 23 ans, son frère William, lui, a 11 ans. Il est atteint du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare avec comme symptôme un manque de tonus musculaire, une absence de sensation de satiété, manger toujours plus, des symptômes associés aussi à des troubles du comportement. On avait donné la parole à leur maman, Céline Martinez, à l'occasion de la journée des aidants. Et Charlie Dupiot a rencontré Anaïs, l'aînée de la fratrie de trois enfants. Elle avait 11 ans à la naissance de son petit frère.
L'annonce de la maladie, j'en ai pas le souvenir. Donc c'était en juillet, mon petit frère William donc avait 5 mois et mon autre petit frère 5 ans. Ma mère nous a fait venir et elle avait mon petit frère William dans les bras et elle nous a dit que vous savez les enfants, William c'est comme un petit koala, donc faudra faire très attention à lui parce que il est fragile. Donc c'était pas comme j'avais vécu avec mon petit frère où c'était beaucoup de joie, beaucoup de gens qui venaient à la maison. Là on était vraiment en huis clos quoi. Donc tout de suite c'était une autre ambiance. Et voilà, c'était plus dans les mois qui ont suivi et plutôt dans les années où on s'est rendu compte du problème. Donc, quand il a su parler, il y a beaucoup de répétitions.
Parce qu'il répète les mots souvent.
Il répète beaucoup, beaucoup. Ce qui fait qu'on devient anxieux et nerveux. Par exemple, il adore les livres. Donc, il va vous demander si vous avez prévu d'aller l'après-midi chercher un livre. Depuis 5 heures du matin, il va vous dire quand est-ce qu'on va aller chercher le livre. Mais quand est-ce qu'on va aller chercher le livre ? Mais quand est-ce qu'on va aller chercher le livre ? Et ça monte en puissance comme ça. Donc, en fait, on n'est jamais hors de la maladie de mon frère.
Comment vous avez l'impression de vous être construite avec ça dans votre enfance à vous, dans votre adolescence ?
L'adolescence, ça s'est plutôt passé normalement parce que j'ai toujours bien travaillé en cours, tout ça. C'était plus les interactions sociales. J'ai mal vécu la primaire, donc quand il est né, la dernière année, et les premières années de collège. Et en fait, j'ai subi du harcèlement scolaire. Je m'en suis rendu compte après une thérapie et des années plus tard. C'était compliqué par rapport à la nourriture aussi, parce que mes amis comprenaient pas pourquoi je voulais pas manger au McDo avec elles ou la pizza. Tout de suite, comme ça a été évincé en fait de la maison et même de nos habitudes, parce qu'à cause du régime de mon petit frère, on a appris tout de suite à très bien manger.
Parce que pour lui, s'il y a cette nourriture-là, il va pas s'arrêter d'en manger, c'est ça le...
Ouais. La première chose qui fait partie du syndrome, c'est un problème de la nourriture. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'hormones de satiété. Donc en fait, ils pourraient manger jusqu'à en mourir. Donc il y a une obésité morbide, donc ils ont un régime spécifique. Donc déjà à la maison, on a su qu'il y avait des changements comme ça. Le premier truc qui est parti, c'était le pain de mie et le Nutella. Tout de suite, il y a eu des choses en fait qui ont été interdites à la maison. Et après, c'est au fil des années, on va dire que la tension permanente de mon frère à la maison fait que j'ai développé, avec aussi en parallèle les études, beaucoup de stress et d'anxiété. Et je suis allée jusqu'au burn-out en fait en 2016. J'ai vraiment pété un câble quoi. J'arrivais plus à me rendre à la fac sans avoir des nausées, des coups de chaud, des sueurs froides. Et donc ma mère qui est psychologue a vu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond quoi. Donc elle m'a amenée chez une psychiatre qui à la fin m'a dit Anaïs, je pense que vous avez des symptômes de la dépression. Donc tout de suite a été un choc parce que à 20 ans faire une dépression, bah on s'y attend pas. Et c'est pas anodin que j'ai un petit frère handicapé. Même si il y a beaucoup de bons moments, il a toujours eu beaucoup d'humour. Même quand il a commencé à parler, en fait, il faisait beaucoup de blagues. Il nous apprend beaucoup de choses. Et c'est être confronté aussi au regard des autres. Et ça, c'est pas évident quand on est jeune. Et que je me souviens, j'étais un spectacle de musique et que j'entends des gens de 40, 50 ans qui disent « C'est qui ce zozo sur scène ?»
C'était un spectacle auquel participait votre frère à l'école ?
Ouais. Bah ça fait pas du bien. Et tout de suite, en fait, j'ai évincé tous les gens un peu toxiques qui étaient autour de moi. Il y a beaucoup d'amis à qui je parle plus parce qu'elles se soucient pas de moi ni de mon frère. Vraiment, mes vrais amis, c'est ceux qui demandent comment je vais et comment va mon frère. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a rongée, je pense. C'est aussi la culpabilité d'aider ou pas ses parents et son frère. Parce qu'en fait, pendant un temps, j'ai eu ma chambre dans l'appartement. Puis après, quand j'ai eu 18 ans, j'avais une chambre en bas de l'immeuble où habitaient mes parents. Et j'avais cette culpabilité en savant ce qui se tramait en haut. Donc mes parents, très fatigués parce qu'ils s'étaient réveillés à 3h du matin. Et en fait, il y a ça qui est tout le temps dans votre cerveau. En tant que moi, sœur. Parce qu'on voit sa mère qui est très fatiguée, qui s'est pris des coups à cause de mon frère qui était énervé, qui a fait une colère. Et donc, par exemple, à un moment, elle a eu des bleus sur les jambes. On se demande toujours, est-ce que là, on doit aider ou est-ce qu'on doit vivre notre vie de jeune, quoi. Et il y a plein de fois où, en fait, je suis pas sortie avec mes potes parce que, en fait, je pouvais pas. Je me suis pas empêchée de vivre parce qu'à un moment où, vraiment, quand j'ai fait mon burn-out, je me suis dit... Ok, là c'est trop. Donc faut aussi vivre ta vie et apprendre à dire que non, là j'ai pas envie d'aider. Et à partir de mon burn-out, je me dis j'aide mes parents et William si moi j'ai les capacités, quand je suis bien.
Entretien avec Charlie Dupiau, hein, vous écoutiez Muriel Sibilia, certainement ça vous renvoie à certains témoignages que vous avez pu recueillir en rédigeant votre ouvrage. C'est pas la nature de la maladie qui fait la réaction, l'émotion, c'est vraiment la maladie en général.
Oui, c'est le fait que ce sont des maladies qui durent très très longtemps dans le temps. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on doit se concentrer pendant 6 mois, puis après on peut reprendre sa vie. En fait, on reprend jamais sa vie comme avant. Et ce qu'a dit cette jeune fille est tout à fait remarquable parce qu'elle a presque tout dit d'une certaine manière, et notamment ce sentiment de culpabilité qui est très très puissant, qui prend plein de formes différentes. C'est-à-dire que c'est à la fois pourquoi est-ce que c'est lui qui est malade et pas moi. Il y a cet aspect-là. Pourquoi est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je m'en occupe assez? Et ça induit des comportements, par exemple chez certains, l'incapacité de se séparer. Et quand tout ça, ça arrive à l'adolescence, qui est vraiment le moment où il faut casser la baraque, partir et vivre sa vie, tout d'un coup, ces jeunes se retrouvent collés à la cellule familiale. Et ça peut durer des années et des années.
On dit on se serre les coudes, mais des fois, faut les desserrer un petit peu les coudes.
Alors certains, dans le livre, disent qu'ils ont dû partir. Ils ont dû aller à l'étranger pour couper un peu le cordon pendant quelques temps. Et quand la famille fonctionne, parce que des fois elle dysfonctionne, ils peuvent revenir après un certain temps.
Est-ce que, ce sera ma dernière question, docteur Dominique Valto-Couanet, dans un service comme le vôtre, je rappelle, oncologie pédiatrique à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, vous avez créé des bulles, des espaces dédiés où ça se passe en consultation dans, on va dire, dans le cadre ordinaire d'un service comme le vôtre, qui est quand même un petit peu extraordinaire, il faut le dire. Ou est-ce qu'il y a des espaces dédiés pour les frères et sœurs? J'imagine, par exemple, pas forcément physiques, mais des groupes de parole, des temps dédiés.
Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, les frères et sœurs sont admis dans le service et donc participent, sont présents dans la vie à l'hôpital de leurs frères ou sœurs malades, ce qui est un point qui a été souligné par certaines personnes dans le livre, certains jeunes du livre. L'autre point, c'est qu'ils peuvent rencontrer les psychologues du département qui vont organiser éventuellement du soutien ou au minimum une discussion pour un espace de discussion et pour ces frères et sœurs. L'autre point, c'est qu'on a organisé des groupes fratries dans lesquels les frères et sœurs peuvent se rencontrer et partager leurs impressions sur ce qu'ils vivent avec un moment un peu convivial pour eux. Alors, en ce moment, c'est un petit peu mis entre parenthèses, mais c'est quelque chose qui nous tient très à cœur et qui permet justement à ces enfants de partager leurs ressentis, leurs difficultés, comprendre que les sentiments complexes qu'ils ont sont partagés par d'autres, et ce qui a déjà été évoqué, qui peut être de la colère, de la culpabilité, parfois de la jalousie, de plus trop savoir quelle est leur place, de leur inquiétude, parce qu'ils sont de tous inquiets du devenir de leur frère ou de leur sœur. Tous ces éléments qui sont d'une incroyable complexité peuvent être partagés, qui comprennent que des sentiments qui parfois dont ils peuvent ne pas être très fiers sont en fait normaux et que d'autres le ressentent, ça aide aussi à faire le chemin. Et il y a une autre structure qui a été mise en place à Gustave Roussy, qui est le Conseil des enfants, qui est un endroit où patients ou frères et sœurs de patients ou enfants de patients discutent pour faire que l'hôpital fonctionne mieux. Et donner leur avis sur notre façon de faire et des fonctionnements. Et là aussi, c'est un espace de parole où il peut y avoir le partage de leurs ressentis. Et puis, en plus, ça leur donne une position d'acteur qui peut être utile aussi.
Merci beaucoup, docteur Dominique Valto-Couanet, d'avoir pris du temps pour participer à notre émission. Un autre témoignage, tout de suite, la parole à une auditrice de Priorité Santé.
RFI à Paris, 89 FM.
Bonjour Bintou.
Oui, bonjour.
Alors, vous vivez à Paris et vous vouliez témoigner dans notre émission. Bintou, vous avez plusieurs enfants, racontez-nous.
Oui, j'ai 4 enfants. Il se trouve que c'est mon fils aîné qui a été diagnostiqué TSA.
Donc, ce trouble du spectre de l'autisme.
Tout à fait. À l'âge de 3 ans. À l'hôpital Necker, chez le docteur Bernard, docteur Glose plutôt.
Les autres enfants, Bintou, ils ont quel âge?
Son frère, le deuxième, il a 5 ans. Mon fils aîné a 8 ans. Sa sœur a 3 ans. Et le dernier a 8 mois.
Donc un petit bébé en plus. Est-ce que vous leur avez dit de quoi souffre précisément leur grand frère, grand frère qui n'a que 8 ans, on le souligne.
Alors, non.
Vous avez mis un mot dessus?
Non, jamais.
Ils vous ont posé des questions?
Non. Ils n'ont jamais posé de questions.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils se rendent compte qu'il y a certaines différences?
Oui. Et nous avons l'impression que c'est depuis qu'ils sont nés qu'ils ont compris automatiquement.
Pourquoi? Parce que quand votre fils a certaines réactions, il a quoi? Parfois des petits accès de colère, par exemple?
Non, il fait de l'écolalie. Il se met à répéter un mot. Il répète le mot. Il va répéter d'une manière intense.
Et d'emblée, les autres enfants, on va dire, entre guillemets, se sont habitués. Ils ont intégré ça. Ils n'ont jamais dit pourquoi il fait ça, c'est bizarre. Les autres enfants ne font pas ça.
Si,
ils demandent quand même.
Si, ils ont posé cette question. Pourquoi il fait de l'écolalie? Je dis parce qu'il a besoin d'être rassuré.
Donc vous avez mis des mots, mais sans leur dire qu'il y avait quelque chose. Votre fils, il continue à être suivi à l'hôpital?
Non. Parce que là-bas, aussitôt qu'ils ont posé le diagnostic, on nous a laissé livrer à nous-mêmes.
Pourquoi vous ne leur dites pas? Parce que vous trouvez qu'ils sont trop jeunes, qu'ils ne pourraient pas comprendre?
Oui, il y a ça. Je ne trouve pas les mots. On essaie d'adapter les mots qu'on utilise suivant les questions qu'ils posent. Pourquoi ils ne mangent pas avec nous?
Et pourquoi ils ne mangent pas avec vous? Pourquoi?
Parce qu'elle a des troubles alimentaires depuis l'âge de 4 ans.
De la déglutition ou il refuse certains aliments?
Il refuse, carrément. Ça lui donne la nausée rien qu'à la vue de l'aliment. Il n'aime pas, il ne supporte pas.
Vous dites que vous avez été livré à vous-même. Aujourd'hui, vous n'avez aucun suivi?
À part l'orthophonie, en libéral, et psychomotricité, il n'y a rien.
Et vous avez une pédiatre qui vous suit ou un pédiatre?
Oui, nous en avions. Mais à cause du coronavirus, il est parti à la retraite. Et depuis, c'est vraiment problématique pour avoir un nouveau.
Et est-ce que vous êtes mise en lien avec des associations de patients, d'autres parents?
Oui, malheureusement, oui. Mais j'ai pas le temps pour y aller. Et ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Non, mais je comprends, c'est difficile. Toujours faire des démarches, un peu plus, c'est fatigant.
Même pour le dossier MDPH.
À la maison du handicap.
Oui, c'est compliqué, il faut renouveler chaque année. On n'a pas le temps, c'est compliqué. Mon mari travaille, j'ai 4 enfants, il faut courir tout le temps. Et vivre avec l'enfant tous les jours, c'est très dur pour moi.
C'est très dur pour vous malgré tout. Si un médecin pouvait expliquer à vos enfants avec des mots de docteur, mais aussi avec des mots qui savent justement toucher les enfants, peut-être que ça pourrait vous aider d'aller voir un pédiatre, une association avec les enfants et qu'il y ait une petite réunion familiale pour en parler tous ensemble?
Peut-être. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est l'année prochaine. Il y aura son frère qui va être dans la même école que lui. Ils sont assez fusionnels. Tous les deux. Et puisqu'ils ont toujours joué, mon fils qui est autiste n'a pas d'amis, et c'est son frère son ami. Et le plus jeune, le seul repère qu'il a, c'est son grand frère autiste. Ils jouent, ils font tout ensemble. Et le second aime l'école, c'est grâce à mon fils qui est autiste. Il adore l'école. Et même si des fois, pour le mettre en marche, c'est difficile.
Je vais donner la parole dans un instant à Muriel Sibilia. Bintou, est-ce que vous avez pensé un jour aller voir quelqu'un pour vous aider, un thérapeute, pour parler de tout ça? Parce que c'est lourd, toute cette histoire de la famille. Et ça fait du bien aussi de se confier à un psychologue, à quelqu'un. On peut aller voir une assistante sociale qui pourra donner dans le quartier les coordonnées d'un psychologue pour vous aider. Vous y avez pensé?
J'y ai pensé, mais j'ai du mal à faire confiance. Mais autour de moi, j'en parle jamais de la maladie de mon fils.
Alors pourquoi vous m'en parlez à moi?
Parce que vous ne me connaissez pas. Vous n'allez pas me voir. J'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on lui colle une étiquette, qu'il ne puisse pas.
Mais vous savez, un médecin, c'est un professionnel de santé, il ne va pas vous juger. C'est justement pour ça qu'il a été formé. Muriel Sibilia, vous avez raconté ce qui vous était arrivé avec votre fille et ça vous a aidé?
Moi, j'ai demandé l'autorisation à ma fille dès que le diagnostic a été posé et on a eu la chance qu'elle dise oui. Et du coup, on en a parlé tout de suite à tout le monde, tranquillement, et ça a permis de recevoir
libérer,
des appuis, des soutiens.
Parce que vous en avez besoin, Bintou, quand on l'entend, cette maman, il y a besoin d'aide, là.
Alors, moi, ce que j'ai appris en faisant ce livre, notamment, c'est que d'une part, il faut pas que les parents hésitent à chercher de l'aide. Alors, l'aide, ça peut se trouver dans l'entourage direct, ou bien ça peut se trouver auprès de professionnels qui ont l'habitude et qui vont pas juger. Et la deuxième chose, c'est ce qui est dit par plusieurs des spécialistes que j'ai rencontrés, à savoir que c'est important de dire la vérité. Parce que les enfants sont des éponges, qu'ils captent tout, et même s'ils n'ont pas les mots pour comprendre exactement ce qu'il se passe, ils captent ce que ressent la maman, ce que ressent le papa, de façon directe ou indirecte, et du coup, comme ils ne savent pas exactement ce qui se passe, ils imaginent. Et ce qu'ils imaginent, c'est toujours beaucoup plus violent que la réalité. Donc c'est important de leur dire, avec des mots très simples, voilà ce qui se passe, voilà comment les choses vont se passer à plus ou moins long terme, c'est essentiel.
Bintou, on vous remercie infiniment pour votre témoignage. On vous dit bon courage. Merci beaucoup. Beaucoup des jeunes que vous avez rencontrés, dont vous citez l'expérience dans votre livre, Muriel Sibilia, sont devenus eux-mêmes soignants. Il y a des infirmiers, il y a des puéricultrices, il y a des médecins, il y a des étudiants en médecine. Ça vous a étonné ?
Oui, beaucoup. Parce que, a priori, en démarrant ce travail, je m'étais dit que l'une des envies premières pour ses frères et sœurs, ça serait plutôt de quitter l'hôpital et d'aller faire autre chose. Et en réalité, non, pour une proportion vraiment très importante. Alors, certains, comme Florence, par exemple, expliquent très bien. Elle dit que son frère était malade, elle allait à l'hôpital, et l'hôpital, c'était un lieu où il y avait du soin, il y avait de la bienveillance, il y avait de l'attention.
C'est vrai qu'on ne voit plus l'hôpital de la même manière.
Hein. Du tout, du tout.
C'est plus l'hôpital qui fait peur du tout.
Non. Et donc, du coup, c'est devenu pour elle un espace sécurisant. Il y a Clarisse qui dit aussi, qui est en étudiante qui va être médecin bientôt, qu'à l'hôpital, on lui donnait des peluches. Et elle reproduisait les soins qui étaient apportés à son frère sur sa peluche. Du coup, naturellement, elle s'est dirigée vers des études de médecine.
Alors, l'épreuve de la maladie, on parlait tout à l'heure des non-dits. C'est vrai que trouver les mots, c'est pas évident. Il y a aussi, pour certains, le mensonge. Hein. C'est certains parents qui ne disent pas la vérité. Et puis aussi, ce qui est impossible à concevoir, à envisager, après ce diagnostic, l'accompagnement jusqu'à la fin. Le diagnostic, l'accompagnement, parfois jusqu'à l'issue fatale, jusqu'à la mort d'un enfant, situation à laquelle vous avez été confronté dans le service que vous avez fondé, dirigé pendant près de 20 ans au sein du CHU Mère-Enfant Sainte-Justine à Montréal. Docteur Nago Humbert, bonjour.
Bonjour.
Alors ce service, c'est le service des soins palliatifs pédiatriques de ce grand hôtel de la métropole québécoise. Aujourd'hui, vous enseignez la médecine au sein de la faculté de médecine de Montréal. Je précise que nous avons enregistrer cet entretien. On va tout d'abord parler, docteur Humbert, si vous le voulez bien, du moment de l'annonce d'un diagnostic en cas de maladie sévère pour un enfant. Avez-vous le sentiment, docteur, que les médecins, par exemple, portent l'essentiel de l'attention sur ce qu'ils disent aux parents ou déjà ils anticipent sur le ressenti global de la famille, également le ressenti de la fratrie ?
Non, je dirais malheureusement, effectivement, les premiers à être au courant sont évidemment les parents et souvent l'enfant lui-même, puisqu'on parle devant l'enfant aussi du diagnostic. Et souvent, les frères et sœurs sont les grands oubliés de la maladie. Les soins palliatifs pédiatriques, c'est pas la dernière semaine de vie, ça peut durer des années. Et donc tout ce parcours, après l'annonce terrible pour les parents et pour le petit patient, il faut englober la famille, les frères et sœurs et les grands-parents.
Est-ce que d'ailleurs les parents vous posent la question ? Ils sont déjà sous le choc de l'annonce et ils vous demandent à vous, médecin, comment est-ce que je vais le dire à un frère ? Comment je vais le dire à une sœur ?
Ça ne vient pas tout de suite. Vous savez, il y a une sidération lorsque souvent l'oncologue ou le neurologue dans les maladies neurodégénératives annonce ce diagnostic et surtout des prévisions de ce qui va se passer. Ils vont être surtout concentrés sur mais qu'est-ce qui va y arriver ? Quels sont les traitements ? Est-ce que c'est définitif ? Va-t-il souffrir ? Où va-t-on ? Et c'est ce genre de questions qui vont venir. Pas tout de suite d'ailleurs, peut-être dans les deuxième ou troisième consultations, parce qu'il y a une telle sidération lors de l'annonce que les parents vont retenir qu'une chose. Puis si vous parlez 20 minutes après, pendant 20 minutes, ils vont rien comprendre et vont rien retenir. C'est pour ça que je dis souvent dans l'annonce, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de vous qui peut reprendre ça avec les parents plus tard pour répondre aux toutes les questions qui vont se poser après. Et c'est souvent nous qui indiquions aux parents comment vous allez faire avec vos autres enfants.
Vous citez cette attention indispensable aux frères et aux sœurs en cas d'annonce, mais aussi peut-être aussi au ressenti du jeune patient par rapport à ses frères et sœurs qui, eux, sont en bonne santé. Comment ressent-il, lui, sa maladie par rapport à ceux qui vont bien, à ceux qui sont à la maison ?
Oh mon Dieu ! Au départ, ils vont surtout se concentrer sur eux-mêmes, sur les traitements. Et les rapports avec les frères et sœurs, ben, ils seront importants parce que quand ils seront longtemps hospitalisés, par exemple, ben, ils vont avoir l'ennui souvent des frères et sœurs, peut-être un peu de jalousie dans le sens où ils vont voir peut-être des enfants courir, jouer comme avant et qu'ils ne peuvent plus le faire. Mais c'est surtout, je dirais, les frères et sœurs qui, pour moi, payent le plus lourd tribut au décès d'un enfant. Pendant la maladie, l'attention va être sur le frère malade, sœur malade. Et avec la grandeur du Québec, vous imaginez bien que, avec les distances, il y aura souvent une maman ou un papa. C'est souvent la maman qui sera à l'hôpital. Le papa va rester avec les autres à la maison, souvent très éloigné de l'hôpital Sainte-Justine. Mmh. Et donc, pour ceux qui restent à la maison, ben, on leur enlève un des deux parents. Donc, il va y avoir une certaine jalousie par rapport à ce frère ou cette sœur malade. Quand il revient à la maison, il faut qu'on continue d'avoir l'attention et on va dire aux autres, écoute, tu fais attention, tu ne le bouscules pas, ou va jouer avec, et puis ben moi je ne vais pas jouer avec, j'ai mes copains, enfin bref. Et il peut à ce moment-là développer une certaine agressivité vis-à-vis du frère ou de la sœur malade. C'est pour ça que dès le départ, moi j'incriminais, je dirais, les frères et sœurs dans la relation et dans le suivi, en leur expliquant qu'ils doivent être violents et en colère contre la maladie, mais pas contre leur frère et la sœur.
C'est vraiment la confrontation de pensées d'enfants avec des choses totalement inconcevables, justement, au sein de ce service auquel vous exercez, que vous avez fondé. Ces soins palliatifs pédiatriques se posent des questions très douloureuses quand on annonce la fin d'une vie qui ne fait que commencer, l'annonce de l'issue fatale. Comment le dire et encore plus peut-être le rapport au défunt, déjà insupportable, la vision d'un minuscule cercueil pour des adultes, c'est quelque chose d'inconcevable pour les enfants, en tout cas beaucoup moins verbalisé. Imaginez, ça ne fait pas partie des choses que l'on croit possibles, le corps, les funérailles, comment on approche tout ça ?
Oui, alors à un moment donné, il est clair que lorsque ça va pas bien, il se pose la question de dire clairement aux frères et aux sœurs, tu sais, peut-être ton frère et ta sœur, ils ne vont pas survivre à cette terrible maladie. Il y en a qui n'entendent pas. Il y en a qui, juste après qu'on leur dit ça, vont quitter le bureau et ils vont jouer. Et c'est très bien, je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils l'aient entendu une fois. Après ça, ils se battent contre cette horrible nouvelle avec leurs moyens. Puis, dès le moment où ça va pas bien, il faut leur laisser le choix d'être présent ou non, de jamais forcer. Et des parents qui disaient « je veux pas qu'il assiste à ça », écoutez, on va voir, laissez-le quand même choisir, parce que l'imagination est souvent pire que la réalité. Parce que sinon, l'imagination des frères et sœurs va être énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils n'ont pas tout fait? L'important pour le frère et la sœur, c'est de montrer et de vraiment les rassurer que papa et maman vont bien. Parce que dans ces moments-là, et surtout les petits, ils ont vraiment peur aussi de perdre le père et la mère, quand ils les voient aussi effondrés que ça. Je me rappelle d'une situation où les parents riaient tout le temps. Oui, mais on ne peut pas pleurer devant lui, ça serait horrible pour lui. Je dis non, mais c'est encore plus horrible ce que vous faites. Parce que lui, il est à l'hôpital, ce qui est quand même pas drôle. Il a un cancer, ce qui est encore moins drôle. Peut-être qu'il va décéder. Et puis là, vous êtes en train de tout le temps gigoter autour du lit pour vous protéger. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient pu avoir des larmes, ça a apaisé le fait qu'on était dans une situation normale. Et puis vous expliquez, c'est normal que papa et maman pleurent parce qu'ils ont un enfant qui est malade, qui est à l'hôpital, et puis c'est triste. Mais dans le deuil, c'est très très dur pour un frère et une sœur, vous imaginez, de retrouver l'amour de ses parents. Quand je dis retrouver, c'est idiot ce que je viens de dire. Ils ne l'ont pas perdu, mais ils ont l'impression de l'avoir perdu. Et comment retrouver cette affection et pas avoir cette peur d'être abandonné par des parents effondrés par ce drame ? Ils savent plus très bien où se situer. J'ai rencontré des gens qui avaient perdu des frères et sœurs et qui en avaient 50 ans, 60 ans et qui me disaient, moi j'ai souffert de ça toute ma vie parce que à chaque étape de ma vie où je faisais une bêtise, ma mère me disait, en tout cas lui il n'aurait pas fait ça. Et puis elle n'aurait pas fait ça. Moi j'ai dit aux frères et sœurs, Ce frère et cette sœur, vous allez l'avoir toujours. Il n'est plus là physiquement, mais vous n'êtes pas deux. Vous avez toujours été trois dans la fratrie. Si on vous demande aux parents combien vous avez d'enfants, vous allez dire trois, vous n'allez pas dire deux.
Merci beaucoup, docteur Nagoin-Berin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes également président du réseau francophone des soins palliatifs pédiatriques. J'ai pas exagéré en début d'émission en disant que c'était un sujet douloureux, hein, Muriel Sibilia. Certains enfants, face à la tempête émotionnelle, hein, la maladie, la mort, vont eux-mêmes développer des troubles. Est-ce que ce risque pour les frères et sœurs est suffisamment intégré ?
Je suis pas sûre. Mmh. À nouveau, c'est très variable, mmh. Ça dépend des endroits, des familles, etc. Mais ce qui se passe notamment, c'est qu'on fait très peu attention à ce que moi j'appelle l'effet boomerang. Mmh. C'est-à-dire que pendant le temps de la maladie, voire pendant le décès, il se passe un certain nombre de choses. Et puis quand tout va un peu mieux, c'est longtemps après, parfois des années plus tard, que l'un des frères ou l'une des sœurs s'effondre, peut faire une dépression. Ou alors par exemple, dans le récit de Marie Astrid, qui a perdu son petit frère, elle raconte comment elle était un peu tétanisée, un peu, elle a pas pleuré, etc. Et c'est plusieurs années après qu'elle a un ami qui meurt, et à ce moment-là, elle est en capacité de vivre le deuil qu'elle n'avait pas pu vivre. Donc il faut être très attentif à ces choses-là.
Témoignages, expertise, décryptage, on retrouve tout cela dans votre livre « Sortir de l'ombre » et les droits d'auteur sont cédés à une association, à Muriel Sibilia, et pour vous c'est important ?
Oui, les droits d'auteur vont à Enfance et Cancer, qui est une association formidable, avec une présidente d'une énergie, elle remue les montagnes du matin au soir, et elle a créé un comité scientifique qui finance des projets, qui ont permis déjà des avancées vraiment très importantes dans le domaine du cancer pédiatrique, et elle reverse tous les financements qu'elle peut collecter à Curie pour financer ses projets de recherche.
On mettra le lien de cette association sur la page Facebook de l'émission. On vous remercie infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Muriel Sibilia. Une pause musicale dans Priorité Santé avant de partir pour le Burkina Faso, où a eu lieu lundi une première médicale. Pause musicale avec Ray Dalton. Ce titre, In My Bones, je rappelle le titre du livre, hein, Sortir de l'ombre, les frères et sœurs d'enfants gravement malades. Yes, I made a lot of mistakes, yeah. Yes, I've been in my way. But I gotta do what it takes now. Got me feeling like I missed my time. Got me feeling like I'm lost. I'll be facing all my demons now. I got my eyes on the road, Lord. Oh, I'm gonna do right by you, Lord. Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby. On a tightrope, yeah. I've been dancing with the ghost. Can't nobody take me on my zone. Priorité Santé, on parle à présent de la mission chirurgicale Santé cardiaque de la chaîne de l'espoir au Burkina Faso. En ligne avec nous, le président de cette ONG internationale, Dr Éric Chesson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Ouagadougou et donc, il y a deux jours de cela, une première, puisqu'après le Sénégal et le Mali, c'est donc désormais au Burkina qu'une opération à cœur ouverte a été pratiquée. Racontez-nous, docteur Chesson, comment ça s'est passé ?
En effet, c'est une grande première, c'est un grand jour pour le Burkina. Nous avons sélectionné 6 enfants qui vont être opérés chaque jour de la semaine. La première était une petite fille de 15 ans qui avait ce qu'on appelle une communication entre les deux oreillettes. C'est une anomalie qui n'est pas compatible avec la vie. Il était urgent, compte tenu de son état clinique, de l'opérer et, entre guillemets, de boucher ce trou qui fait qu'elle va revivre normalement. Donc, si vous voulez, c'est un espoir considérable pour le Burkina. et pour l'ensemble du pays.
Docteur Chesson, expliquons quelle est la différence entre une opération cardiaque donc à cœur ouvert et une chirurgie classique. Qu'est-ce que ça change pour les jeunes patients ?
Ça change, si vous voulez, je dirais que l'acte chirurgical n'est pas considérable. Par contre, pour faire ce type d'intervention, il faut arrêter le cœur. Mmh. Et pendant cet arrêt du cœur, qui par exemple pour le petit Isaac, c'était une intervention difficile hier, nous avons arrêté le cœur pendant 2 heures. Et donc c'est une pompe qui remplace le cœur pendant que ce cœur est arrêté et que nous pouvons faire un geste à l'intérieur des parois et des valves du cœur pour le réparer avant de refermer et de relancer le cœur. Donc c'est on arrête le cœur, c'est quelque chose de magique, mais qui doit demander des compétences extrêmement importantes.
Pour bien expliquer, hein, ça veut dire que là on parle d'enfants, et ça veut dire qu'il est plus nécessaire de faire partir ces petits très loin de la famille, très loin de la maison, pour faire l'intervention chirurgicale.
Oui, vous savez, la chaîne de l'espoir est présente au Burkina depuis 98. Mmh. Nous avons dû faire partir plusieurs centaines d'enfants en France. Mmh. C'était formidable pour ces enfants, mais c'est une aberration économique, c'est une aberration logistique. Et ce qu'il faut, c'est opérer sur place. Mmh. Donc, c'est transfert de connaissances et formation de l'équipe. Et puis ensuite, d'avoir un budget pour assurer ces interventions qui sont coûteuses. Mmh. Chaque intervention à cœur ouvert coûte 5 000 euros. Mmh. C'est le prix d'une vie.
Mmh. C'est le prix d'une vie, une vie qui n'a pas de prix. Il faut donc du matériel, il faut des équipes, il faut des personnels formés et des personnels qui ensuite vont rester sur place et qui vont profiter à la santé du pays tout entier.
Bien entendu, et c'est pour ça que nos missions, c'est la première, et nous aurons probablement environ 6 dans l'année 2021, pour continuer à former l'équipe sur place, c'est-à-dire le chirurgien, l'anesthésiste, qu'on appelle le pompiste, les infirmiers de réa. C'est toute une chaîne de compétences qui est indispensable pour faire ces interventions qui sont le seul espoir pour ces enfants. Je vous dis, hier, nous avons eu une consultation avec 35 enfants, il y avait 34 à opérer. Mmh. Quand je vous dis que c'est à opérer, si vous ne les opérez pas, il n'est pas possible que ces enfants dépassent l'adolescence.
Un besoin vital. Et ce qui est important aussi avec ces opérations à cœur ouvert, c'est la récupération. C'est de voir très rapidement ces enfants à nouveau courir avec les autres.
Bien sûr. Vous savez, le petit Isaac qui a eu une intervention difficile hier. Je pense que d'ici 3 semaines, 1 mois, vous le verrez sur un terrain de foot et il sera comme ses petits copains. Il va rejoindre, si vous voulez, ce qu'on appelle la vie, le souffle de vie. Et c'est absolument magique. Il suffit de fermer ce trou et ensuite il retrouve la vie.
Bravo.
Sans ça, il n'y a pas d'espoir.
Bravo Isaac, futur champion. Hein. J'espère qu'on en parlera
voilà. Dans
Radio Foot International. Merci beaucoup docteur Chesson. On reparlera bien Merci. Sûr de ce programme exceptionnel. Hein. Première en termes de chirurgie cardiaque très bientôt dans Priorité Santé puisque notre reporter maison Igor Strauss part sur place. On aura bientôt tout le son et des images radiophoniques plein la tête. Et notre émission touche à sa fin. Merci à C'est tous à Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Laurence Nau qui ont préparé et réalisé cette émission. Demain, on parlera des partenariats hospitaliers entre l'Afrique et la PHP, assistante publique hôpitaux de Paris, Dakar, Yaoundé, Abidjan. Quel projet, quelle réalisation? On en parle demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunwe Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce digitalement innovante. Sunwe Assurance, notre métier, l'assurance.